Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Alain sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Alain.
Bonsoir Olivier, bonsoir aux auditeurs d'Europe 1.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Alain? Et d'où m'appelez-vous?
Alors, j'ai 52 ans et je vous appelle d'un petit village situé dans les Pyrénées-Atlantiques, le village de Montaut.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Alain?
Écoutez, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet particulièrement difficile, très lourd. C'est celui de Betaram, le dernier bagne pour enfants encore en activité. Où j'ai été élève de 1980 à 1986.
Oui.
J'ai connu dans cet établissement un certain nombre de violences que j'ai voulu dénoncer par un groupe Facebook, les anciens du collège et lycée de Betaram,
oui,
victimes de l'institution,
mm-hmm,
que j'ai créé le 10 octobre 2023. Et j'ai souhaité libérer la parole sur ce dossier parce que il y a le déni, l'omerta dans cet établissement catholique qui dure depuis des décennies. Et j'ai souhaité laisser à la postérité un recueil de témoignages. C'est pour ça que j'ai constitué ce groupe Facebook. Et je ne m'attendais pas du tout à découvrir ce que j'allais découvrir.
C'est un institut qui est encore ouvert aujourd'hui?
C'est ça, c'est un institut qui est ouvert aujourd'hui. C'est un collège rebaptisé le Beau Rameau en 2009 qui accueille des enfants donc de la 6e à la 3e avec un internat de garçons. Et les filles sont logées à Igon, un peu comme dans l'ancien temps. L'établissement, évidemment, n'applique plus les mêmes méthodes pédagogiques, mais il reste quand même des choses bizarres dans cette structure. Et c'est bien pour ça que je mène actuellement ce travail aux côtés de 86 victimes ce soir.
D'accord. Alors, vous allez, les 86 victimes ont rejoint donc votre collectif. Elles ont toutes subi du harcèlement. Elles ont toutes subi des choses là-bas.
Elles ont subi dans leur scolarité des violences physiques, mais pas que. En fait, c'est allé bien au-delà. Et ce, depuis des décennies. En tout cas, depuis que les personnes sont vivantes, c'est-à-dire grosso modo depuis les années 50, on recueille des témoignages depuis le mois d'octobre. Des témoignages qui sont affolants, affligeants pour l'institution. Et on se demande d'ailleurs, cette violence systémique, pourquoi elle a pu perdurer jusqu'à l'aube des années 2000. Et puis très récemment, puisque nous avons fait suspendre un pédocriminel qui officiait, écoutez bien, depuis 40 ans dans la structure.
Mais non.
40 ans, la personne était surveillante d'internat, elle n'était pas inquiétée. Et sur ce dossier, j'ai effectivement découvert des choses innommables grâce aux victimes, puisque grâce à ce type d'émission comme la vôtre, Olivier, eh bien, la parole se libère un peu tous les jours sur votre antenne, comme sur d'autres, et les gens se mettent à parler.
Alors, à partir de quand, en fait, vous avez commencé à dénoncer tout cela?
Ben moi, depuis longtemps, puisque déjà en 1997, il y avait eu une plainte de M. Lacoste-Séris concernant son fils qui avait été battu par un surveillant général qui lui avait fait perdre d'ailleurs une partie de son audition. Et donc, cette personne s'était révoltée contre les méthodes de cette institution. Par la suite, il y a eu une affaire de viol, le père Caricard, qui s'est suicidé en l'an 2000 suite à deux plaintes pour viol qui avaient été déposées contre lui. Évidemment, il avait nié les faits, s'était réfugié à Rome, Et puis, il avait mis fin à ses jours, nous privant d'un procès de Betaram qui nous aurait été bien utile parce que, évidemment, la lumière sur cet établissement aurait été faite à cette époque-là. Et puis, il y a eu donc cette constitution de ce groupe Facebook pour recueillir les témoignages des anciens élèves, parce que rien n'existait sur Internet à ce propos. C'était un peu la page blanche. Sur les autres groupes, on s'amusait plutôt des coups que les enfants recevaient. Cela permettait, soi-disant, de devenir des hommes. Je ne suis pas sûr qu'en prenant des coups, on devient des hommes, d'autant plus qu'on était hommes avant de rentrer à Betaram, mais on en est sorti avec pas grand-chose. En tout cas, moi, après 6 ans passés dans cette institution, j'étais plutôt bon élève en primaire. Je suis sorti en 3e plutôt mauvais et j'ai dû ensuite cravacher dur pour redresser la barre, avoir mon baccalauréat et suivre des études universitaires tout à fait conventionnelles puisque j'avais décroché un master par la suite. Mais je considère que mes 6 années à Betaram ne m'ont strictement rien appris. Au contraire, j'ai vu la violence que j'ai subie moi-même, puisque j'ai pris de sacrés roustes. Alors certains diront peut-être que je l'ai mérité parce que j'étais un enfant difficile. Il se trouve que malheureusement pour eux, j'habite à 700 mètres de l'établissement, que je suis donc un enfant de Betaram, un enfant du coin. J'avais d'ailleurs des prêtres de la congrégation de Betaram avec qui j'étais ami. Pour la petite histoire, je suis chrétien, je souhaitais devenir prêtre. À l'enterrement de mon père, à 15 ans, il y avait 60 prêtres de Betaram, pour vous dire que je suis vraiment un enfant de l'institution. Et pourtant, j'y ai subi des violences physiques, et essentiellement physique en ce qui me concerne, des passages à tabac, des gifles et des coups de pied dans les côtes parce que je me retournais en études ou tout simplement parce que j'avais une moyenne en baisse. C'est cette violence institutionnalisée que j'ai voulu dénoncer à travers un recueil et très vite, j'ai reçu des témoignages bien plus affolants que le mien puisque je n'avais que des violences physiques en ce qui me concerne, c'était des violences sexuelles, avec non seulement des attouchements des pères directeurs qui se sont succédés de 1960 à l'an 2000, mais également des fellations, des viols sur des enfants de moins de 13 ans. Parce que dans l'institution de Betaram, on accueille des enfants à partir de l'âge de 8 ans. Vous vous rendez compte, Olivier, à l'âge de 8 ans, vous êtes placé dans des grands dortoirs où vous n'avez aucune intimité. Peut-être juste comme compagnon votre doudou, vous êtes aligné dans des dortoirs donc de 50 lits. Vous êtes livré à l'arbitraire parce que ce sont des élèves surveillants qui s'occupent de vous, qui n'ont aucune formation. Et ces élèves surveillants, ils sont patronné par des surveillants généraux qui sont recrutés uniquement sur leur capacité à cogner les enfants. Et dans ces surveillants généraux, il va se trouver malheureusement des personnes très mal intentionnées qui vont se livrer au-delà de violences éducatives conventionnelles à des humiliations, à des tortures, à des actes de barbarie. Et puis, évidemment, des actes de pédophilie prononcés sur les enfants entre 8 et 13 ans.
Mais comment, en fait, expliquez-moi comment et par qui sont commis ces actes.
Alors, comment sont commis ces actes et par qui? Écoutez, j'ai commencé à donner la réponse par des pères directeurs. Les pères directeurs, on dirait qu'il y a un cahier des charges dans cet établissement, ils attouchent les enfants régulièrement. Ils vont faire leurs courses. Le père Caricard, pour ne pas le citer, va se promener dans l'internat et puis à des heures totalement indues, très, très tard dans la nuit, parfois à 1h, 2h du matin, il va aller faire ses courses pour toucher directement les enfants. Mais il n'est pas le seul, en fait, à se livrer à ce genre de turpitude. Ce que je découvre, en fait, dans le dossier pénal que je constitue, c'est que la pratique est récurrente. Déjà en 1960, le petit Jean-Marie, il a 10 ans. Jean-Marie Delbos, il a été d'ailleurs sur la presse mentionné, il a 10 ans, il est orphelin. Et c'est sa tante qui s'occupe de lui. Il va être livré justement à un surveillant général qui est un prêtre, qui s'appelle Henri Lamasse, et qui va s'adonner sur lui à des fellations. Il n'est pas le seul. Ses voisins également de dortoir sont concernés. Vous imaginez la terreur de cet enfant quand il voit le père qui rentre dans le dortoir pour s'adonner à ses pratiques pédophiles.
Oui, je m'étonne.
Il y a un certain nombre de personnes également qui sont proches de lui parce que c'est fait en public.
C'est fait
sa
en public
sera,
en public
c'est fait en public devant les autres enfants qui sont terrorisés. Évidemment, de voir ce prêtre à la soutane noire qui arrive, qui va enlever sa soutane et qui va se livrer donc à ces abominations sur des enfants de 8 à 10 ans. Ce prêtre, écoutez bien Olivier, il n'a pas été exfiltré, il n'a pas été excommunié, il est encore dans les pattes de Betarame.
C'est-à-dire
vous rendez compte que...
Encore aujourd'hui ?
Il est encore aujourd'hui. À l'âge de 97 ans, soit, dans les pattes de Betarame. Le père Laclos, par exemple, qui est un voisin de Betarame, qui est à Asson, lui, il va avoir une aventure sexuelle avec une femme. Il va être excommunié de l'Église. Parce que c'est ça le drame de notre Église catholique. Je dis de notre Église parce que je suis chrétien. J'étais d'ailleurs confirmé à Betarame par l'évêque. Le drame de cette Église, c'est de nier la condition d'homme des prêtres. Je rappelle que dans toutes les autres religions, que ce soit dans la religion musulmane, que ce soit chez les orthodoxes ou chez les protestants, les religieux ont le droit de prendre une femme, d'avoir des relations sexuelles, ce qui est tout à fait normal, et d'avoir même des enfants. Dans la religion catholique, on espère que le prêtre, en fait, il soit un saint. D'abord, c'est un homme qui a des pulsions et qui a des besoins. Et l'Église, elle a besoin de se réformer en profondeur. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a de moins en moins dans nos églises pratiquants, tout simplement parce qu'on se reconnaît de moins en moins. Et quand on voit ces turpitudes de tous ces prêtres qui font la leçon à tout le monde, alors qu'ils se livrent à des choses inacceptables, qu'ils aient une sexualité, nous pensons que c'est nécessaire. Nous pensons que la société, elle doit évoluer là-dessus, et l'Église également. Nous sommes prêts d'ailleurs travailler avec les évêques de France à ce niveau pour les accompagner et pour leur montrer à ces jeunes prêtres qu'un amusement de 15 minutes va détruire une vie. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas subi ces violences sexuelles, mais rien que les violences physiques, ça a quand même sacrément ébranlé ma vie, ça a sacrément ébranlé la confiance que je pouvais avoir avec les autres. Et je peux vous dire que c'est très difficile de porter ce dossier parce que il résonne en nous. Et toutes ces victimes, en fait, qui s'agglutinent les unes derrière les autres. Chaque jour, ce dossier devient l'un des dossiers de pédophilie les plus importants que la France a connus. On est, Olivier, à 86 victimes, dont 44 sexuelles. Donc, les plaintes de Jean-Marie et autres, je ne les compte pas là-dedans.
Les enfants, quel type de profil étaient les victimes ? Parce que je crois savoir que des enfants de très bonne famille fréquentaient ce lycée, cette institution. Y a-t-il eu des victimes parmi ces gens-là, ou finalement ce sont encore des enfants de familles plus pauvres qui étaient les victimes?
C'est pas forcément des victimes de familles pauvres. C'est-à-dire, les victimes, c'est souvent les enfants qui sont un peu en difficulté, dont les parents sont éloignés. On a par exemple une maman qui vivait aux États-Unis et qui confie parce qu'on parle de la bonne réputation de l'établissement, qui confie donc son fils de 7 ans et demi à l'établissement, en toute confiance. D'autres mamans qui vont confier leur enfant tout simplement pour fuir un réseau de pédophilie et qui vont supplier les pères de prendre l'enfant. Tellement qu'ils supplient visiblement, activement, que l'enfant va être abusé le jour de son anniversaire. Il va échapper au pire, heureusement, parce qu'il va se débattre. Et comme c'est les grandes époques de Betaram, il y a énormément d'enfants et d'enfants prépubères à Betaram que les religieux, comme les laïcs, ont l'embarras du choix. Donc, oui, il y avait cette bourgeoisie bordelaise qui mettait son enfant. Il y avait également les enfants en partie de François Bayrou, qui était le député de notre circonscription, qui d'ailleurs n'a pas fait de déclaration publique. D'ailleurs, il n'y a pas de politique qui se manifeste sur ce dossier.
C'est quand même assez incroyable. C'est tout de même totalement incroyable. 86 victimes, et même Bayrou n'a pas pris la parole là-dessus.
Aucun politique.
Comment vous l'expliquez, ça? Comment
le
vous
maire l'expliquez de l'Estel Betaram qui continue à soutenir l'insoutenable. À un moment, oui, effectivement, ils ont de la compassion, comme l'établissement de Betaram, comme Monseigneur Hayet, qui est choqué, qui se préoccupe davantage des enfants qui viendront au monde, puisqu'il est contre l'IVG. Ça, c'est un débat, effectivement, être contre l'IVG, alors que c'est inscrit aujourd'hui dans la Constitution. Ça, c'est un combat que ces gens l'amènent. Par contre, le combat pour les victimes, on ne les entend pas. Et on ne les entend pas, ils sont pleins de compassion, ils font des prières pour nous, mais ce n'est pas des prières que nous avons besoin, c'est de l'action. Et de l'action, ce n'est pas uniquement des indemnisations, c'est aussi une reconnaissance par l'ensemble de la congrégation et du diocèse que dans ces établissements catholiques, il s'est passé l'inacceptable. Et nous sommes prêts, nous les victimes, à travailler avec eux. Et c'est ça, en fait, moi je le répète en l'envi sur les médias, mais on n'est pas entendu. Je ne parle qu'à des journalistes et des victimes. Les politiques devraient, il devrait y avoir une commission parlementaire sur les établissements scolaires catholiques qui ont des internats. Comment on peut continuer à accueillir des enfants de 8 ans dans les internats? C'est pas possible. Un enfant doit commencer à être accueilli en internat à partir de l'âge de 14 ans. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a aussi une hypersexualité des enfants entre eux. Et dans ce dossier, d'ailleurs, je commence à recevoir des plaintes.
Qu'appelez-vous de l'hypersexualité
entre enfants?
Qu'appelez-vous l'hypersexualité entre enfants, c'est-à-dire?
Tout simplement qu'il y a une libération de la sexualité, oui. Et que sur le dossier de Betaram, ce que je constate, c'est qu'il y a eu un glissement vers des agressions sexuelles entre élèves.
Oui, alors, d'accord. Et ça, donc, ça a continué. Vous voulez dire quoi? Que ça continue aujourd'hui, cette histoire?
En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des événements qui se sont produits.
Vous savez quoi,
il n'y a pas très,
Alain,
très longtemps.
Vous savez quoi, précisément?
Quelques mois et
Alain,
quelques années.
Vous m'entendez? Vous m'entendez bien?
Oui.
Quand je... Quels événements, et vous savez par quoi, par qui? Parce que moi, je peux vous dire que je sais plein de choses, et comme ça, et je peux affirmer plein de choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me précisiez exactement quelles sont vos sources de tout ça.
Vous savez, les sources que j'ai, c'est des échanges avec les victimes et avec les parents d'élèves. Qui me contacte, évidemment. Vous comprenez bien que quand vous avez votre enfant en psychothérapie, vous n'avez pas forcément envie d'aller devant un officier de police judiciaire et remuer ce passé, même très récent. Le processus...
Oh bah, écoutez, moi, je vais vous dire, si j'ai subi une agression sexuelle, si. Si mon enfant est en psychothérapie, sincèrement, c'est assez grave pour quand même aller voir un officier de police judiciaire. Là, vous parlez de choses très graves, en fait. Donc, s'il se passe encore des choses dans cette institution, comme vous le dites, et que personne ne va voir la police, c'est très grave. C'est très grave.
Je suis d'accord avec vous, Olivier. C'est bien pour ça que, visiblement, vous n'êtes pas comme les autres, parce que, bah, surtout quand on a ce genre de fait, quand les enfants se barricadent dans les box pour éviter la visite nocturne du surveillant qui a été suspendu, je répète qu'il est là depuis 40 ans, que ce monsieur est accusé de pénétration anale sur des enfants de moins de 13 ans, et qu'il faut attendre la constitution d'un petit groupe comme le mien et de faire pression avec l'ensemble des médias pour qu'il soit suspendu, alors que je rencontre le directeur de Betaram qui ne veut pas le suspendre, qui ne veut même pas entendre les témoignages et les plaintes criminelles que je déposerai dans les 48 heures au procureur de la République. On marche sur la tête dans ce pays. On marche vraiment sur la tête.
Moi, aujourd'hui,
et on
ce
se
que,
dit
ce
comment
que je...
est-ce possible que l'éducation nationale, qui a un contrat d'enseignement avec cet établissement, qui fait soi-disant des inspections régulières sur le contenu pédagogique, moi j'en suis d'accord, mais par contre, qui évolue les pratiques éducatives et des surveillants, comment sont-ils formés, comment sont-ils recrutés, y a-t-il eu des inspections? Il y en a bien dans les établissements médico-sociaux par l'Agence régionale de santé ou par le conseil départemental, il y en a bien par le ministère de la jeunesse et des sports quand il s'agit de colonies de vacances. Pourquoi il n'y en a pas dans les internats de l'éducation nationale, puisque je rappelle quand même que l'éducation nationale subventionne et paye les professeurs. Il ne paye pas les surveillants, mais il paye les professeurs. Donc, dans ce pays, quand est-ce qu'on va mettre en place pour les établissements, quels qu'ils soient confessionnels, une brigade d'intervention pour pouvoir aller contrôler d'une façon inopinée quelles sont les procédures et comment les gens sont recrutés et qu'est-ce qui se passe dans les internats?
Oui, attendez, il y a aujourd'hui, il y a en France une police qui s'occupe de ce genre de choses. Aujourd'hui, vous portez ces accusations. Il y a deux choses dans votre témoignage, Alain. Il y a d'abord la partie qui concerne les anciens élèves dont vous avez fait partie, qui visiblement ont subi beaucoup de sévices et donc du coup qui ont des plaintes ont été déposées pour ces anciens élèves.
Absolument.
Et aucune n'a. Il y a quoi? Il y a prescription, comme on dit, ou qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est au procureur de la République qui a diligenté une enquête préliminaire depuis le dépôt du premier corpus de plainte le 19 janvier, qui communiquera quand il jugera que c'est nécessaire de le faire. Les auditions se déroulent auprès des gendarmes, ça se passe d'ailleurs plutôt bien. Les gens aussi peuvent spontanément aller déposer plainte dans leur gendarmerie.
Oui, mais est-ce que ça a été fait? Ça a été fait?
Ça a été fait. Moi, ce que j'arrive à parler, c'est des 86 victimes qui sont confiées à moi et qui m'ont demandé, parce que dans ces 86 victimes, je rappelle quand même, j'ai des policiers et j'ai des gendarmes.
D'accord, mais ces 86 victimes sont-elles, elles ne sont pas anonymes, hein, ces 86 victimes. Il y a les noms sur le collectif? En fait,
bien sûr, il y a les noms, et d'accord. D'ailleurs, ils vont régulièrement également sur la presse pour dire et et raconter le calvaire qu'ils ont vécu.
Je comprends. Pardonnez mes questions hein, et mes demandes de précision, parce que vous vous doutez bien, vous parlez sur une grande antenne aujourd'hui, ce soir, et que ces accusations sont très graves. Donc je vous demande quelques précisions afin que nos auditrices et nos auditeurs sachent bien que dans ce collectif, vous parlez de gendarmes, de policiers, ces gens-là sont authentifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas anonymes, il y a bien leur nom, leur prénom, et ils ont déjà témoigné dans la presse, c'est ce que vous me dites.
Bien sûr, d'accord. Et le procureur, parce que avant de déposer plainte, si vous voulez, nous faisons remplir un CERFA, le 11-527-3, nous demandons la carte d'identité au plaignant pour bien authentifier les témoignages. Dans ces témoignages, et je le répète, j'ai pas des claques pédagogiques, j'ai des humiliations, j'ai des violences physiques très graves, j'ai des actes de torture et de barbarie, et j'ai des agressions sexuelles qui vont jusqu'à la sodomie. Donc les choses, elles sont claires, nettes, et c'est le procureur de la République qui, je l'espère, ouvrira une information judiciaire. En tout cas, je travaille d'arrache-pied pour l'obtenir, et je demande évidemment à tous les auditeurs qui ont connu des élèves qui sont passés dans l'établissement de Betaram, y compris récemment, parce que je répète qu'il y a un pédocriminel plus en activité puisque nous l'avons fait suspendre. Non,
il a 97 ans, donc vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Non, il n'a pas 97 ans, celui dont je parle.
Ah bon,
celui dont je parle, il était encore en activité il y a quelques semaines.
Et quel âge a-t-il donc? Et dites-nous
Quel âge a-t-il? Il doit avoir 62 ans. Il est arrivé très jeune à Betaram, puisqu'il est arrivé en 1984, d'accord, au moment où j'y étais.
D'accord. Qui est cette personne?
Il est resté 40 ans surveillant d'internat. Il n'a pas évolué, il ne s'est pas formé, il n'a pas demandé de promotion, il n'a pas demandé à aller autre part. Le nid, il était dans le nid, il faisait effectivement ce qu'il voulait dans cette structure, et c'est pour ça qu'il y est resté autant de temps.
Qui est cette personne? Qui est cette personne, en fait? C'est un professeur?
C'est un surveillant d'internat.
D'accord, ok, un surveillant d'internat en plus, d'accord.
Et il est resté surveillant d'internat toute sa vie,
40 ans,
professionnelle.
40 ans d'activité donc de ce monsieur. Je suppose donc plusieurs agressions, non?
Absolument.
D'accord.
Il est visé par un certain nombre d'agressions sexuelles.
Y a-t-il eu des plaintes à son encontre?
Sur des faits. On parle de fellation.
Vous m'entendez quand je vous parle, Alain, ou pas? Vous m'entendez?
Oui, je vous d'accord. Écoute.
Y a-t-il eu des plaintes contre ce monsieur en 40 ans d'activité?
Absolument.
D'accord. Et depuis longtemps, il y a des plaintes?
Il y a eu des plaintes, notamment en l'an 2000.
En l'an 2000,
effectivement.
D'accord. Et malgré ça, l'institution a donc maintenu cet homme?
Absolument.
D'accord. Bon. Est-ce que vous pensez que l'on est encore là, dans finalement une histoire qui se répète, hein, où souvent l'Église, et donc comme c'est un collège catholique, force est de reconnaître qu'on a longtemps, hein, en France, finalement couvert ce type d'agissement. Est-ce qu'on est dans ce type d'affaire-là encore aujourd'hui, avec cette institution qui s'appelle comment aujourd'hui, vous m'avez dit?
Le Beau-Ramon.
Le Beau-Ramon. Pourquoi ça a changé de nom d'ailleurs?
Pour se refaire sans doute une virginité, mais en gardant des surveillants qui étaient présents dans les années 80-90. Notamment un autre surveillant général qui est devenu CPE et qui est parti en 2016. Et qui est aussi visé dans des CERFA pour des violences physiques graves. Mmh.
D'accord.
Donc, moi, je ne m'explique pas la situation. C'est pour ça que je porte cette voix. Et pour le moment, pourtant, il y a eu... c'est passé au journal télévisé de TF1, de
oui.
France 2.
Oui.
Il y a eu des articles sur la grande presse nationale. Vous dites que vous êtes un grand média européen. Effectivement, c'est passé aussi sur Europe 1. Mais rien ne se passe. Il n'y a toujours pas d'inspection.
Vous avez parlé du procureur. Vous avez parlé du procureur. Aujourd'hui, vous avez rencontré ce procureur ? C'est le procureur de Pau ?
Oui, Rodolphe Jarry, je n'ai pas rencontré le procureur en personne puisque je suis aussi plaignant dans ce dossier. Donc c'est normal qu'il
D'accord.
ne m'entende pas.
D'accord.
Par contre, j'ai été auditionné par les services de gendarmerie pendant plus de 4 heures,
D'accord.
effectivement.
Il y a combien de temps, Alain, que vous avez été...
Il y a un mois et demi.
D'accord. Ah oui, il y a un mois et demi. Donc cela voudrait dire que maintenant, monsieur le procureur de Pau... suit, en tout cas, l'affaire de près et instruit, en fait. Il y a peut-être quelque chose en instruction en ce moment.
Absolument. Il y a les auditions des victimes et après, sûrement, il y aura les auditions des agresseurs. Mmh. Nous sommes sur 21 personnes incriminées à ce jour.
Mmh. À l'époque, Alain, vous n'avez jamais raconté votre calvaire à qui que ce soit, à vos parents. Pourquoi, en fait ? Vous aviez peur ? L'institution était trop importante, trop grande ?
Mais ce n'était même pas la peine d'y penser.
D'accord.
L'établissement de Bétaram avait une renommée locale et encore aujourd'hui, puisque certains essaient de tout, comme toujours, de stigmatiser les victimes, qu'on fait de la mauvaise publicité pour l'établissement. Mais c'est quand même pas la faute des victimes, Olivier.
Bien sûr que non, je ne suis pas à dire que c'est de la faute des victimes. Je vous demande, je vous pose des questions. Donc, c'est le 23 avril dernier, hein, là, que vous avez déposé 43 plaintes ?
C'est ça. Et je vais en redéposer, je pense, prochainement, un nouveau corpus, un quatrième corpus. Je ne sais pas combien il va falloir de plaintes sur ce dossier pour que les autorités publiques s'en saisissent vraiment.
Bah alors,
et notamment l'Éducation nationale qui, à ce jour, n'a toujours rien fait.
Vous m'avez dit que Marc Haillé, hein, l'évêque de Bayonne, s'est exprimé par le biais d'un communiqué où quoi, il reconnaît qu'il s'est passé des choses dans cette institution, ou d'une manière générale, il reconnaît que finalement, dans le diocèse, comme dans l'ensemble du pays, les catholiques et l'opinion sont juste... au courant qu'il y a eu des choses qui se sont passées et donc des révélations. C'est le communiqué, hein, dans lequel il parle.
Écoutez, à part un communiqué dans lequel il dit qu'il est choqué, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas eu de rapport avec le diocèse. J'aimerais bien d'ailleurs, parce que nous avons des propositions à faire. Hein. Nous sommes dans un esprit constructif, mais je me demande en fait... combien de victimes il va falloir, parce que, je rappelle, les jeunes victimes, à 10 ans qui se pointent en gendarmerie pour dire « j'ai été abusé sexuellement », ça n'existe pas, Olivier.
Non,
il faut du temps. Sur ce dossier, d'ailleurs, la plus jeune victime pour le moment, elle a 34 ans aujourd'hui.
Mmh.
Elle a été abusée à 9 ans. Le petit Anthony, il est abusé à 9 ans, à la fois par un élève plus grand que lui, qui a 15 ans, et par un traître.
D'accord. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué le père, un père qui avait été accusé de pédophilie par des anciens élèves. Des victimes ont été indemnisées par la commission reconnaissance et réparation, c'est ça ?
Oui, absolument. Il y a eu des victimes de prêtres. Maintenant, pour les victimes de laïcs, il n'y a aucun processus d'indemnisation de
en
prévu.
Route.
Pourtant,
D'accord.
il y a des instances comme l'INIR, mais qui est...
Pardon. Ok. On va marquer une pause et puis on va conclure juste après, mon cher Alain. À tout de suite.
Merci, Olivier.
À tout de suite. 23h09 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Jeu SMS Opening Week Roland Garros du 20 mai au 9 juin. L'élite du tennis mondial vous donne rendez-vous sur Europe 1, radio officielle du tournoi de Roland Garros. Vous êtes impatient ? Eh bien, prenez de l'avance toute cette semaine. Vous pouvez jouer avec Europe 1 pour tenter de gagner vos places, deux places hein, pour l'Opening Week, les épreuves donc de qualification du tournoi. Pour cela, vous envoyez deux SMS tennis. par donc au 739-21. Trois SMS, pardon, non deux, hein, trois SMS, 75 cents du coût du SMS, et deux gagnants seront tirés au sort chaque jour. Europe 1, radio officielle du tournoi de Roland-Garros. Nous sommes avec Alain depuis le début de cette émission qui évoque l'affaire Notre-Dame de Betharame. 43 nouvelles plaintes déposées depuis le début de l'année 2024, qui portent à 76 le nombre de plaintes transmises au procureur de la République de Pau, dont 38 pour des agressions sexuelles, selon le collectif hein, d'Alain, donc qui nous appelle ce soir, un collectif composé de combien de personnes ? 83 personnes, vous m'avez dit, hein ?
86 ce 86. Soir, Olivier.
D'accord.
86, et puis j'en attends encore, ouais. Malheureusement. Mais je ne suis pas surpris parce que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'agresseurs, laïcs et prêtres, qui se sont succédés sur des décennies. Et donc, le nombre de victimes ne peut aller qu'en augmentant, et on n'est pas du tout en haut de la vague.
Pourquoi ces plaintes tombent-elles maintenant, en fait ? Et non, avant, en fait, parce que vous évoquez des faits qui se sont passés en 83, 84, pour la plupart, hein, dans ces années-là. Comment vous expliquez que ça tombe maintenant, en fait ?
Pourquoi ça tombe maintenant ? Je ne sais pas. Je pense que la libération de la parole, elle se fait maintenant. Oui. Vous le voyez, oui, dans le milieu du sport, dans le milieu du cinéma.
Oui, c'est vrai que l'époque prête à la libération de la parole, vous avez raison. Mais voilà, je m'étonne que qu'il n'y ait pas prescription, parce que 83, non, c'est pas 30 ans la prescription ?
Oui, c'est 30 ans, mais après la majorité. Mais
après la majorité,
vous savez bien
d'accord.
Qu'avec la prescription glissante, il suffit d'avoir un acte hors prescription, et c'est le cas sur ce dossier, pour pouvoir instruire l'ensemble. Donc, rien n'est perdu, en fait. Et dans 10 ans, Olivier, je pense qu'il y aura encore des affaires qui sortiront, parce que j'ai un certain nombre de victimes, et notamment les jeunes, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils vont se faire gronder par leurs parents, parce que, vous disiez tout à l'heure, mais pourquoi les gens ne parlent pas ? Pourquoi les enfants ne le disent pas ? Mais quand ils le disent, c'est le cas d'Olivier, c'est le cas d'Anthony, ils le disent pas à leur maman, ils le disent à leur mamie. Et la grand-mère, chaque fois, qui est pieuse, leur dit « Mais c'est pas possible, tu devrais avoir honte. » Et c'est cette honte qui porte depuis des décennies. Vous croyez, ils ne vont pas à la plainte parce qu'on pense qu'il y a de l'argent à aller gratter, et donc les victimes, spontanément, iraient raconter des violences sexuelles qu'ils ont donc subies. Moi-même, je n'ai pas subi de violences sexuelles. J'aurais pu dire que j'avais subi des violences sexuelles. On ne ment pas. Et quand j'ai les victimes en face de moi, je connais bien les modes opératoires aujourd'hui des agresseurs. Les récits imaginaires, il y en a très peu. Et quand il y en a, ils sont écartés immédiatement.
En tout cas, la justice fera, je l'espère, lumière sur ces différentes affaires, sur ce gros dossier. C'est vrai que vous portez des accusations assez graves, notamment sur ce surveillant d'internat qui a été là pendant 40 ans, qui visiblement est accusé de pédophilie aujourd'hui hein, par des anciens élèves. Il n'a pas encore été écarté, vous me dites, ou il a été écarté dernièrement ?
Il a été suspendu par l'établissement suite à la pression de la presse et à la pression des victimes.
D'accord. Et là il a donc été suspendu il y a combien de temps maintenant ?
Il y a 2 mois.
Il y a 2 mois. D'accord. Donc on est vraiment là maintenant dans, dans le vif du sujet.
On est dans le vif du sujet. Je rappelle également que, et je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, ce monsieur, non seulement il était surveillant à Bétaram, non seulement il a vécu avec des enfants donc de 12, 13 ans pendant plus d'un an, un an et demi, bon bref, avec la complicité des parents qui avaient toute confiance en lui. Le week-end, il animait des groupes de scouts et pendant les vacances, il allait à l'étranger parfois avec les enfants qu'il invitait quand ils avaient une maison secondaire ou lors de voyages. Les parents étaient complètement omnubilés par ce monsieur. Mmh. Ils savaient y faire. Vous ne restez pas 40 ans dans une institution comme cela au contact des enfants sans savoir y faire.
Alors, ce
soir, sont des professionnels.
Bien évidemment, vous parlez de la suspension de cet homme. Bien évidemment, la présomption d'innocence m'amène à une certaine réserve sur tout ce qui va maintenant venir. L'ensemble du Beau Rameau, en tout cas, qui est le nouveau nom de cette institution Notre-Dame de Bétaram, va donc connaître des mois compliqués dans les temps qui viennent.
Mais c'est pas d'hier.
Non, c'est pas d'hier, mais là...
L'établissement connaît des temps compliqués depuis les années 2000 et les accusations sur le père Caricard. Il y a toujours quand même une suspicion sur les bétaramites.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce que je veux dire, Alain, c'est que là, il y a un procureur qui s'est emparé de l'affaire. Donc, c'est ce que je veux dire. Dans les mois qui viennent, le procureur de Pau risque de donner suite.
Je suis d'accord avec vous, Olivier, il s'est emparé de l'affaire parce qu'il y a un ancien élève qui fait un groupe Facebook et qui réunit les témoignages laborieusement et d'une façon totalement désintéressée, avec opiniâtreté, motivation et détermination.
Et c'est vous, en l'occurrence, cet
ancien élève. Il n'y a que des
élève.
Coups à prendre sur ce type de dossier, Olivier.
Oui, et en même temps, cet élève, cet ancien élève, c'est vous. Et votre combat est noble, Alain. Votre combat est celui d'un ancien élève enfant qui a connu, lui, des brimades là-bas, des coups, de la violence. D'autres ont connu bien pire que ça. Et vous réclamez justice aujourd'hui. Cette démarche, elle a été entamée ici et là dans le pays. Et sachez que moi, je la soutiens complètement. Complètement. Vous demandez aujourd'hui justice, c'est tout. Et vous avez bien raison. Je note simplement qu'on est encore dans une affaire où on a beaucoup de mal, je parle des institutionnels, des politiques, on a beaucoup de mal à faire bouger les choses quand il s'agit d'actes répréhensibles tels que ceux que vous décrivez depuis le début de cette émission et concernant une institution, malheureusement, encore une fois, liée à une institution catholique. Donc,
ça devrait pas poser de problème.
Ça ne devrait pas poser de problème.
Ça devrait pas poser de problème parce que on est dans des univers clos. C'est pas vendeur, évidemment, comme dossier. On est un peu dans la même situation que l'inceste. C'est un tabou absolu dans la société. Donc, on vient remuer les consciences au plus profond. Et je crois que c'est aussi un sujet d'intérêt général dont il faut se saisir. Et on a parlé tout à l'heure de la sexualité et des prêtres, mais ça peut aller au-delà parce que la pédophilie, il y en a partout. Mmh. Voilà, il y en a partout dans la société, ça a toujours existé et ça existera toujours.
En tout cas,
par contre,
oui, allez-y, pardon.
D'une façon systématique, comme sur le dossier de Bétaram, je pense que c'est rarement vu.
Qu'entendez-vous par là ? C'est
on
rarement
est vraiment
vu.
À Bétaram sur une pédophilie décomplexée à partir du moment où on a parfois des connivences actives, c'est-à-dire où le surveillant général va aller chercher l'enfant qui va se faire attoucher directement par le père directeur en pleine nuit devant le surveillant général. Et ce monsieur va ensuite qui est dénommé Cheval.
Ne dites pas de nom, s'il vous plaît, ça ne sert à rien.
Non, mais c'est pas un nom, c'est un surnom.
Ah bon, d'accord, ok.
Non, je dis pas de nom.
D'accord.
Je respecte la présomption d'innocence, mm-hmm. évidemment, dans ce dossier, mais ce surveillant, donc dénommé Cheval, et tous les élèves qui sont passés à Bétaram le connaissent, eh bien, va être, entre guillemets, remercié de l'institution dans les années 1988 et ira diriger à Orléans puis à Châteauroux des établissements scolaires catholiques.
Ce qui est dramatique, bien sûr.
Et bien sûr que c'est dramatique. Mais pourquoi c'est dramatique alors que dans le dossier de plainte en 2000, son nom apparaît? Donc, il va y avoir une enquête, et j'espère sérieuse, et j'ai toute confiance dans la justice à ce niveau-là, pour regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette institution sur les 20, 30, 40 dernières années.
Bah, il s'est passé, Alain, ce qui s'est passé dans de nombreuses institutions, il s'est passé ce qui s'est passé dans de nombreuses colonies de vacances, camps de scouts, il s'est passé ce qui s'est passé dans de nombreux évêchés. Malheureusement, des personnes qui en société avaient une certaine stature et qu'on était loin de pouvoir soupçonner de tels actes. Et on a encore du mal aujourd'hui en France à admettre que cela a existé, non seulement que ça existe encore et que ça perdurera, parce que cette perversion, elle est partout. Vous le savez, j'ai traité de nombreuses fois de ce sujet dans les films que je fais sur France 2, dans Les Yeux d'Olivier. Ce sujet est assez tabou. Hein. Tout ce qui concerne la sexualité, et ça n'est pas une sexualité, c'est-à-dire que c'est une perversion. Tout ce qui concerne la pédophilie, tout ce qui concerne les abus faits sur les enfants, c'est quelque chose avec lequel on a du mal en France. Et alors que vous l'avez dit tout à l'heure, nous aurions tout intérêt à faire toute la lumière sur toutes ces histoires. Et d'ailleurs, la direction de cette institution devrait prendre part à votre démarche pour ne plus entendre parler de ça et qu'on passe à autre chose, mais que la justice passe. Voilà. Mais le problème, c'est que on a du mal à en parler, c'est tabou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain.
Absolument, Olivier. Moi, je bois vos paroles. Je suis totalement d'accord. On a du mal à en parler parce que, voilà, ça concerne des enfants et on ne sait pas trop traiter ces phénomènes. Ça nous dépasse. Alors, soit on est dans l'excès avec des demandes de peine de mort, d'émasculation.
Ça, c'est la justice populaire. Ça, c'est,
la justice populaire et qui n'a pas un grand intérêt. Et il suffit juste de mettre des garde-fous. Et s'il y avait des garde-fous dans cette institution, les choses ne se seraient pas passées. Quand on voit quand même que sur l'ensemble des plaintes sexuelles, 25% des enfants sont abusés par deux personnes. Vous vous rendez compte? Deux personnes. Il y a bien des connivences à un moment pour... C'est pas possible, vu le nombre d'élèves qui sont passés, qu'on ait des indicateurs aussi élevés. C'est ça que révèle ce dossier. Il heurte les consciences. Et moi, je suis très malheureux, d'ailleurs, d'être obligé de porter un tel dossier. Je porte celui de Bétaram, mais comme vous l'avez rappelé, il y a d'autres institutions religieuses. Et notamment, moi, j'ai par exemple des filles qui commencent à me contacter pour dire « j'ai été victime aussi de religieuses ». Donc, il y a un vrai problème, mais c'est sociétal. Et il ne faudrait pas uniquement, d'ailleurs, tout ciblé sur l'Église catholique. Il y a tous les corps de la société qui sont frappés. Là, on est un peu plus interloqués parce que ce sont des religieux et que leurs paroles, en principe, ils doivent évangéliser et porter la bonne parole. Ils ont
trahi. On sait que ça représente une minorité, hein, une minorité, mais malheureusement, ça ne dure que depuis trop longtemps.
Olivier, selon les chiffres de l'INSERM, c'est 5,5 millions de Français qui ont été abusés pendant leur minorité.
Oui, mais, ça, oui, mais ça, ce ne sont pas les prêtres qui sont les seuls responsables de tout ça, c'est ça que je veux dire. Donc, ne nous trompons pas dans nos explications. Il y a bien évidemment des affaires, mais elles concernent bien d'autres profils. Merci en
Absolument.
Tout cas, Alain, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution de cette affaire. Hein. Nous serons ravis de vous redonner la parole. Voilà, et bon courage surtout dans le combat qu'elle vôtre aujourd'hui.
Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie.
Aux auditeurs.
Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.